La dernière fois, on avait parlé des jeunes gens hein, qui ont vaincu le malin. Et je voudrais ce matin voir ce que la parole de Dieu dit dans l'épître de Jean en particulier sur le diable et résister au diable. Alors quelques versets déjà d'introduction qui parlent du diable, du malin, dans la première épître de Jean. Donc, vous avez vaincu le malin. C'était 1 Jean 2, 13 et 14. On va reprendre ces versets tout à l'heure. Hein. Le diable pêche dès le commencement, dit 1 Jean 3, 8. Et il ajoute ce beau verset, le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et puis en 1 Jean 4, 4, là aussi un verset tout terrain, hein. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Et enfin, donc à la fin de l'épître de Jean, chapitre 5, verset 18-19, il parlait du malin qui ne touche pas quiconque est né de Dieu. Et il est ajouté, nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier gît dans le malin, est au pouvoir du malin. Alors, nous voulons parler maintenant de ce sujet important entre tous, et nous rappeler que la vie est un combat spirituel. Nous avons des ennemis. Et j'ai lu un recueil de psaumes il n'y a pas si longtemps, un recueil que j'ai donné à quelqu'un après, mais qui parlait surtout des psaumes qui refaisaient un peu les psaumes, qui les interprétaient, en parlant de la soif de Dieu, en parlant du secours de Dieu, en parlant de la consolation de Dieu. Tout ça, c'est dans les psaumes. Mais il ne parle jamais du mal, hein, du combat, des ennemis, hein, de la lutte. Et pourtant, c'est une grande partie des psaumes, hein, une grande partie du combat chrétien, une grande partie de la prière chrétienne. Hein. Nous avons des ennemis. Et nous sommes trop nombreux à commencer notre journée sans penser à nos ennemis. Il faut qu'on commence notre journée en pensant à nos ennemis. Si on était dans une guerre physique, hein, eh bien on irait reconnaître d'abord au début de la journée les positions, mais même avant que la journée ne débute, on irait reconnaître les positions de nos ennemis tous les matins. Et on étudierait attentivement les possibilités d'attaque et de contre-attaque. Mais lorsqu'il s'agit de la bataille spirituelle, eh bien, on souffre sur ce point d'une grave suffisance. Et pourtant, nous avons donc trois ennemis jurés, la nature pécheresse, hein, qu'on appelle la chair, le monde et le diable. On parlera du monde la semaine prochaine, on reprendra le texte. Ces trois ennemis, eux, ne se reposent jamais. Hein, et par conséquent, ne devraient pas non plus se reposer. Alors aujourd'hui, même si c'est un dimanche, aujourd'hui même, on fera face à la tentation, c'est sûr. On fera peut-être face à la tentation de céder à la pression du monde contemporain. On fera face à la tentation de suivre des liens aguicheurs, séduisants sur Internet. On fera face à la tentation de dire du mal, hein, de nos prochains ou de réduire la foi en miettes, enfin, peu importe. Il est grand temps donc de prier sérieusement pour la contre-attaque, pour la protection, hein, contre nos pensées, contre les mensonges du monde et contre donc les stratagèmes de l'ennemi, hein, du diable. Alors, notre adversaire, le diable. On ne peut nier que la Bible nous parle du diable à bien des reprises. Elle nous révèle qu'une puissance mauvaise, donc une puissance mauvaise personnelle, hein, est à l'œuvre dans le monde. Une puissance qui cherche à s'opposer aux œuvres de Dieu, qui cherche à détourner les humains de la foi au Seigneur et au Sauveur, au Dieu Sauveur et Seigneur. Alors l'idée même d'un diable agissant dans le monde pour nuire aux humains fait aujourd'hui pas mal de difficultés aux gens. Hein. Elle fait difficulté pour beaucoup aujourd'hui, y compris pour des hommes et des femmes qui se disent chrétiens. Et il n'y a plus de diable, ça n'existe plus, on n'en parle plus, on parle du mal, hein, de façon vague et abstraite. Alors c'est dû pour une large part au fait qu'une certaine image du diable s'est imposée dans la mentalité populaire et surtout depuis le Moyen-Âge. Et cette image a eu bien des encouragements dans les églises. C'est une image qui ne s'inspire que très petitement, hein, très partiellement de la révélation biblique, hein, de la Bible. Cette image met l'accent sur des aspects spectaculaires, les plus spectaculaires ou même fantastiques de la parole de la personne de Satan. Hein. On décrit un diable fourchu avec des cornes, un visage de faune, des yeux flamboyants, une odeur de soufre, enfin tout ce qui va avec. Ce qui est, ça prête bien sûr le flanc à l'accusation de superstition. Pourtant, après les horreurs de deux guerres mondiales au XXe siècle, après la Shoah, après les camps de concentration, après les criantes inégalités qui font que les uns meurent de faim, tandis qu'à côté les autres gaspillent allègrement, hein, la destruction de la création et tout ce qu'on veut, après tout ça, il est difficile de nier qu'une puissance mauvaise soit à l'œuvre dans le monde, dans ce monde, cherchant à détruire ce que Dieu construit. Alors, si la Bible nous parle du diable, ce n'est pas pour satisfaire notre curiosité. Non, ce n'est pas pour satisfaire notre curiosité, mais c'est pour nous épargner de graves dangers. C'est pour nous mettre en garde contre les pièges qu'il nous tend, pour détourner, en nous détournant de Dieu, en nous poussant au mal. Il y a danger à fixer, bien sûr, ses regards sur le diable, à se laisser fasciner par lui, hein, à se faire voyeur du monde des ténèbres et des gens qui se sont engouffrés, hein, dans cette direction. Eh bien, ont beaucoup de mal à s'en sortir. Hein. Ce qui est caché, il faut mieux éviter tout ça. Hein. Ce qui est caché, mystérieux, attire pourtant. Or, le diable n'appartient pas au monde visible que nous pouvons connaître par expérience. C'est pourquoi la Bible n'en donne pas une description scientifique. Elle le représente par des images symboliques et non pas par des photographies. Comment pourrions-nous photographier l'invisible, de toute façon? Elle nous parle plus de ce qu'il fait que de ce qu'il est. En effet, c'est par ses actes qu'il se manifeste à nous. Et donc l'important et de savoir en quoi consistent ses manœuvres, hein, comment il cherche à exercer son pouvoir sur le monde des humains. Alors tout d'abord, il est le tentateur. Hein. Le chapitre 3 de la Genèse, tout commence par là, nous le montre sous la forme d'un serpent, hein, cherchant à séduire, hein, Ève, hein, et par elle, l'homme, hein, Adam, hein, pour les amener tous les deux à désobéir à Dieu. Alors la tentation, hein, consiste à nous faire croire que nous pouvons trouver par nous-mêmes mieux que ce que Dieu nous offre. On peut trouver mieux que ce que Dieu nous offre, et on le trouve par nous-mêmes. C'est là la grande tentation. Et cette tentation implique toujours un doute. Mettre en doute, on met en doute, en faisant ça, l'amour de Dieu. On met toujours un doute alors sur l'amour de Dieu en même temps que l'offre de quelque chose de meilleur. Alors c'est bien le cas des tentations de Jésus. Satan cherchait à le faire détourner de sa mission. Dès qu'il a été baptisé, dès qu'il a été envoyé dans cette grande mission, eh bien Satan est cherché à le détourner de cette mission. On voit ça en Matthieu 4, 1 à 11, je ne reviens pas. Et on voit tout au long de l'évangile, en Matthieu 16, en Jean 6, que le diable a essayé de lui proposer des moyens de gagner les foules sans passer par la croix. Voilà la grande tentation. Si le Seigneur Jésus lui-même a été tenté, il est évident qu'aucun humain n'est à l'abri de la tentation. L'attraction du péché aussi vient du diable. Et la tentation et le péché sont agréables, sont liés et sont agréables parce que le diable sait les maquiller. On a déjà vu des gens très maquillés, et ce n'est pas beau à voir. Et on s'en écarte instinctivement. Il y a quelque chose de louche là derrière. Mais le diable sait très bien maquiller le mal et le péché. Et il se déguise lui-même en ange de lumière et on n'y prend pas garde. On n'est pas sur le garde. Les représentations du diable n'ont rien à voir avec la réalité, on l'a dit. Personne n'est plus raisonnable que le diable. Personne n'est plus agréable. Personne n'est plus nuancé. Personne n'est aussi donc plus rusé dans ses sollicitations que le diable. Son astuce la plus grande consiste à nous faire penser qu'il n'existe pas, hein, et que le péché n'aura pas de conséquences fâcheuses, hein, bien évidemment. Et c'est pas pour rien qu'on le nomme le malin. Et donc, dans le texte qu'on a lu, le premier, 1 Jean 2, il est parlé du malin. Et l'apôtre Jean l'appelle le malin, entre autres. Et en 1 Jean 1, en 1 Jean 5 également, le malin. Alors, pourquoi le malin? Parce qu'il est l'auteur du mal. Dans malin, il y a mal. Mais aussi le malin parce que c'est le rusé. Comme le goupil, le renard rusé. Des fables. Il est rusé. Il sait utiliser nos faiblesses personnelles. Il sait jouer des plaisirs de ce monde pour nous séduire. Et en chaque occasion, il agit en stratège adroit. Il s'attaque à nos points faibles. Rien ne l'arrête. N'oublions pas qu'il a osé s'attaquer à Jésus, affaibli par 40 jours de jeûne. Rien ne l'arrête. Et l'apôtre Paul nous met en garde contre ses ruses, ses manœuvres, ses embûches. On y reviendra, Éphésiens 6, 11. Alors, quelques exemples. David, dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament, David a probablement péché par orgueil en ordonnant, poussé par le diable, de dénombrer le peuple d'Israël. Par exemple, 1 Chronique 21. Et malgré la tentation bien réelle, David est responsable. Et il est coupable d'avoir cédé à l'influence du diable. De la même manière, si le diable a tenté Ananias et Saphira, Ananias, dans acte 4, en acte 5, eh bien, ce dernier est clairement coupable d'avoir menti à l'Esprit Saint, d'avoir subi et doit subir la conséquence de sa faute. Tous les deux, d'ailleurs. La volonté de se montrer aux autres bien meilleur que ce que l'on est a été utilisée par le diable pour tenter Ananias et Saphira, son épouse. Paul, un autre domaine, Éphésiens 4, Paul met en garde contre la colère. La colère mal gérée peut devenir une faiblesse dont, dit Paul, le diable se sert pour faire chuter les enfants de Dieu. Et il demande donc de se repentir, de se pardonner avant de s'endormir. De même, le refus de la sexualité dans le cadre du couple est aussi une source de tentation, dit Paul, 1 Corinthiens 7, 5. Le chrétien doit aussi être vigilant pour ne pas se placer dans une situation de faiblesse. Le péché n'est jamais excusé. Le chrétien qui pêche est responsable. Mais pour éviter de pécher, le chrétien doit fuir la tentation. Voilà sa responsabilité. Et c'est là souvent qu'il y a problème. Un alcoolique, par exemple, qui fréquente les débits de boissons, risque de chuter, de rechuter. Non à cause de sa faiblesse, lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'un bar, mais premièrement, parce qu'il a fréquenté un lieu qu'il aurait dû absolument éviter. Et on pourrait dire que de problèmes on pourrait éviter en fuyant la tentation, comme dit la parole de Dieu. Alors, la tactique la plus fréquente du diable est donc de séduire. Il agit par ruse plus que par force. Il agit par insistance. Mais il arrive aussi que le diable change de tactique, brusquement. Et c'est ça qui est toujours dur. Quand on change de tactique, on est un peu désarçonné. Et donc, au lieu de séduire, il cherche alors à effrayer. Et on voit 1 Pierre 5,8 qu'il apparaît comme un lion rugissant. Autre image, un lion rugissant. Un lion rugissant fait peur aux petites biches, aux petites gazelles, aux zèbres, à tout ce qu'on veut. Les naturalistes nous disent que les rugissements du lion ont pour objet de créer la panique. Et la panique va conduire les victimes vers le piège de la lionne qui les attend un peu plus loin et qui, elle, va chasser les proies, va les tuer. Donc, trop d'attention fixée sur le diable a le même effet chez les humains, la peur. Et bien souvent, on a pu vivre ça. Hein. La peur est mauvaise conseillère. Hein. Quand on se remet à Dieu, on retrouve la confiance en Dieu, on voit les choses d'un autre point de vue. Hein. La peur tombe hein, et on est plus fort pour lutter. Hein. Alors, il est aussi le menteur et le calomniateur. Hein. Aussi bien quand il séduit que quand il épouvante, le diable ment. Hein. Et donc, l'apôtre Jean, dans son évangile, cette fois au chapitre 8, verset 44, relate cette parole de Jésus qui dit que le diable est le père du mensonge. Dieu, au contraire, est tout le contraire de ça. Dieu est fidèle. Il est vrai. Hein, sa parole est vérité. Hein. On peut se fier à lui. Hein. Le diable, lui, cherche toujours à tromper. Hein. Le diable nous est présenté aussi comme le calomniateur. Alors, c'est le sens du mot diabolos. Diabolos qui a donné diable. Hein. Non seulement, donc, il accuse Dieu hein, de nous tromper, hein, mais il se fait notre accusateur devant Dieu. Hein. On ne va pas lire tous les textes, mais il se fait notre accusateur devant Dieu en soulignant notre péché, hein, ainsi que devant notre propre conscience aussi. Hein. Donc son but est de nous faire perdre courage. Hein. Et s'il nous arrive à nous faire perdre courage, il a tout gagné. Hein. Alors il susurre à notre oreille que, voilà, mais comment Dieu peut-il aimer un pécheur comme toi? Hein, c'est pas possible. Hein. Retire-toi, hein. Va te cacher. Hein. Et donc la plus grave des tentations, c'est de nous amener à désespérer de Dieu. Voilà la plus grave des tentations. C'est nous amener à ne pas oser nous tourner vers lui. Et si on ne peut plus, on ne se tourne pas vers lui, on a tout perdu. Et tant qu'on se tourne vers lui, alors là, tout est possible. Et comme on l'a dit dans les beaux chants qu'on a chantés, hein, l'espoir à nouveau est possible. Devant cet accusateur, nous serions incapables de nous défendre seuls. Heureusement, nous avons, et on l'a lu en 1 Jean 2, 1, il y a 3 semaines, nous avons un défenseur, un avocat auprès du Père, un intercesseur. Et le Saint-Esprit aussi atteste à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. On l'a vu aussi la semaine passée. Alors, parce qu'il aime et pratique la diffamation, le diable est aussi le diviseur. En effet, le plus sûr moyen de semer la zizanie, c'est la calomnie. Attaqué, chacun se défend en accusant à son tour. Et on a vu ces tristes choses bien souvent chez les plus saints. À la racine de la division, il y a l'orgueil, toujours l'orgueil. Et c'est ainsi qu'on voit dans l'église de Corinthe, en 1 Corinthiens et en 2 Corinthiens, on voit dans l'église de Corinthe, surtout en 1 Corinthiens, une église déchirée par les partis. Moi je suis de ci, moi je suis de ça. Moi je suis, finalement. Ça commence toujours par là. C'est-à-dire, les bons, c'est nous. C'est nous, les bons. Et l'orgueilleux ne se satisfait pas de dire « je suis bon, je suis juste hein, », mais il n'est satisfait que quand il peut dire « je suis meilleur, je suis plus fort, je suis plus juste que les autres hein. ». Ou, comme le pharisien de la parabole, « je te loue, Seigneur, de ce que je ne suis pas comme les autres hommes hein. ». Luc 18, 11. Donc l'orgueil, chaque fois que nous laissons prendre au piège de l'orgueil ou que nous disons injustement du mal, hein, du mal les uns des autres, nous faisons automatiquement les alliés de Satan. Alors il faut résister, hein, c'est un beau mot, résister. Hein. Si la Bible nous parle autant du diable, c'est donc pour que nous prenions conscience des dangers qu'il peut causer. Et en détruisant donc notre foi en Dieu, il nous condamne à la destruction. Et nous devons savoir qu'il est plus fort que nous. C'est ce que la Bible dit. Il est plus fort que nous. Mais le Seigneur est plus fort que lui. Voilà ce que dit la Bible également. Et le Seigneur est venu pour détruire les œuvres du diable. 1 Jean 3, 8. Et sa force nous est donnée pour tenir ferme. Alors, il y a ce magnifique passage de Jacques et de Pierre, Jacques 4, verset 7, qui dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Résistez. Alors, comment faire ça concrètement ? De manière concrète, il s'agit de revenir à Dieu dans le contexte. Et on voit ça en 1 Pierre aussi. Résister au diable, c'est revenir à Dieu. Revenir à Dieu. Reconnaître son besoin de Dieu, son besoin de purification, dans la repentance, et désirer se soumettre à Dieu en toute chose, toute sa vie, resoumettre toute sa vie à Dieu dans un processus de repentance. Voilà la solution. L'élément clé de la victoire n'est donc pas spectaculaire. Au lieu de céder aux tentations de notre nature pécheresse, de se laisser éblouir par le monde, il est nécessaire de se repentir. Ce mot « repentir », c'est la clé de tout. Refuser toute tentation, choisir de se soumettre à Dieu, demander son pardon. Voilà la clé. Alors Jacques, dans le passage, dans le contexte, cite l'humilité nécessaire dans le combat spirituel. Il montre que dans le combat spirituel, l'humilité est essentielle. Il cite un passage des Proverbes. La victoire ne vient pas de nous. L'ennemi est trop puissant. La victoire est donnée à tous ceux qui se réfugient humblement en Dieu. Lui qui, en Jésus-Christ, est le grand vainqueur du diable. Là aussi, la clé de la victoire n'est pas spectaculaire. Il s'agit de la foi dans les promesses de Dieu. Il s'agit de la foi en la réalité de ses soins présents qui invite à la confiance, même dans l'adversité. Alors, l'important, c'est de ne jamais douter que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. On l'a lu en 1 Jean 4:4. Celui qui est en vous, c'est-à-dire le Seigneur, par son esprit, est plus grand que celui qui est dans le monde, c'est-à-dire dans le monde, c'est notre adversaire, le diable, dont le but est d'asservir les humains. Par sa mort sur la croix, par sa résurrection, Jésus a fait du diable le vaincu. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, je le redis, 1 Jean 3:8. Alors, il y a un autre texte qui va plus à fond dans cette idée. C'est Éphésiens 6, 10 à 20 qu'on a fait qu'évoquer tout à l'heure. Je ne vais pas en relire, c'est le grand passage où Paul parle du combat spirituel, des armes que nous possédons en tant que chrétiens dans ce combat spirituel. Et la lettre aux Éphésiens contient donc ce passage plus développé concernant le combat spirituel du croyant. La résistance se fait en comptant sur la force donnée par Jésus, ce qui correspond à l'humilité dont on parlait tout à l'heure. Le combat spirituel se mène de cette façon. Cette façon. 3 plus 4, 7. D'abord, il y a la vérité. Je les rappelle simplement pour mémoire. Il y a la vérité qui démasque l'erreur du père du mensonge. On a besoin de cette vérité. Et ensuite, il y a la justice donnée par Dieu qui rend inopérantes les flèches de l'accusateur qui cherche à nous accuser. Donc. Ensuite, il y a tous les bienfaits qui découlent de l'Évangile qui procurent aux croyants la paix avec Dieu. Voilà une protection. Il y a la foi aussi qui permet de compter sur la victoire du Christ, de s'appuyer sur les promesses de Dieu qui sont vraies et sûres. Ensuite, il y a la certitude du salut, l'assurance du salut donné par le Christ qui garantit la victoire du croyant. Il y a la parole de Dieu, bien sûr, qui est utile pour se protéger des attaques en recherchant ce qui est digne de confiance, mais qui permet aussi l'annonce de l'Évangile, seul moyen de délivrer une personne de l'emprise du diable. Et enfin, septième point, septième façon, il y a la prière qui exprime la dépendance constante au Dieu victorieux et qui conduit à se laisser transformer par Dieu pour être ses porte-parole dans le monde. Alors, pour résumer, on voit que le combat spirituel fait partie de la vie chrétienne. Il se manifeste par la lutte contre le péché, par la repentance et par l'exercice de la foi dans l'humilité. L'enfant de Dieu est vainqueur du malin, comme a dit l'apôtre Jean, quand il s'appuie sur la victoire passée du Christ à la croix, quand il s'appuie sur le soutien présent du Dieu vivant, et enfin quand il s'appuie sur l'accomplissement futur et certain de toutes les promesses de Dieu. Le combat spirituel est quelque chose de collectif, mais aussi de personnel, qui s'enracine dans une vie quotidienne d'obéissance et de dépendance envers Dieu. Amen.